Pour le message de ce matin, frères et sœurs, je vous propose deux portions des Écritures. La première dans l'Ancien Testament et la deuxième dans le Nouveau Testament. Je vous invite, pour ceux qui le peuvent, à se lever et écouter la lecture de la parole de Dieu, une manière d'honorer la parole de Dieu, une manière d'honorer Jésus-Christ qui est cette parole devenue chair. Ésaïe 53, verset 6. Nous étions errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Éphésiens, chapitre 4, verset 20 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Jusqu'ici, donc, la lecture de la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs, dans sa sainte présence. Alors, le thème du message de ce matin, c'est l'homme nouveau à la place du vieil homme. Souvenons-nous, frères et sœurs, que nous achevons aujourd'hui notre série de prédications sur ce que j'ai intitulé au départ les 9 échanges. Sur la base de Isaïe 53, 9 échanges qui ont eu lieu à la croix lorsque Christ est mort. Je vous rappelle le premier échange. Jésus a été puni afin que nous soyons pardonnés. Ensuite, Jésus a été meurtri afin que nous soyons guéris. Jésus a été fait pécheur de notre nature pécheresse afin que nous soyons rendus justes de sa propre justice. Quatrième échange, Jésus est mort à notre place pour que nous puissions partager sa vie en abondance. Cinquième échange, Jésus a été fait malédiction afin que nous recevions la bénédiction, pour ne pas dire sa bénédiction. Sixième échange, Jésus a enduré la pauvreté afin que nous partageons son abondance. Septième échange, Jésus a porté notre honte afin que nous partagions sa gloire. Et dernièrement, on a parlé du huitième échange. Jésus a souffert de notre rejet. À la croix, il a été rejeté, abandonné du Père afin que nous bénéficions de son acceptation. Devenir enfant de Dieu et accepté dans la grande famille des enfants de Dieu. Voilà, frères et sœurs, et ce matin, donc, nous allons parler de l'homme nouveau à la place du vieil homme. Jusque-là, en fait, nous avons traité ce que la croix a fait pour nous. Mais attention, nous ne devons pas nous arrêter là, uniquement sur ce que la croix a fait pour nous. Le risque, si nous nous arrêtons là, mais c'est de vivre, voyez-vous, une vie chrétienne superficielle. Le risque, il est là et il est grand, parce que le but final de Dieu ne se limite pas à ces 8 échanges. Voilà pourquoi nous allons voir un dernier aspect très important concernant l'œuvre de la croix ce matin. Il ne s'agit pas de ce que la croix peut faire pour nous, mais ce qu'elle peut faire en nous. La question qui nous intéresse ce matin, c'est comment Dieu traite-t-il le vieil homme? Comment Dieu traite-t-il ce vieil homme? Alors c'est en quelque sorte une transition, voyez-vous, qui permet de passer ensuite, si Dieu nous le permet, à ce que la croix doit faire en nous, ce que la croix a fait pour nous, ce qu'elle peut faire en nous et ce que la croix doit faire en nous, Dieu voulant, c'est ce que nous allons voir les prochaines fois. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous d'avoir une idée très claire de ce qu'est le vieil homme. Le Nouveau Testament parle de deux hommes, le vieil homme et le nouvel homme. Le plus souvent, ils ne sont jamais nommés. Pourtant, il s'agit là de deux personnages qu'on pourrait qualifier, comme d'aucuns le disent, les plus importants du Nouveau Testament. Le vieil homme, aussi appelé, en tout cas de façon légitime, le vieil Adam, est la nature pécheresse. La nature pécheresse que nous avons héritée de notre ancêtre Adam. Nous savons qu'Adam n'a jamais eu d'enfant. Adam n'a jamais eu d'enfant jusqu'à ce qu'il se soit rebellé. D'ailleurs, il y en a qui disent, mais si Adam avait connu des enfants avant le péché originel, comment les choses allaient se passer? Mais là, nous rentrons dans le domaine des spéculations. La Bible nous empêche de spéculer, nous devons prendre les choses telles qu'elles se présentent pour nous. En tout cas, ce que nous savons, c'est que Adam a péché alors qu'il n'avait pas encore eu d'enfant. Ce qui fait que tout descendant, en tout cas d'Adam, porte en lui la rébellion de notre ancêtre. Peu importe donc qui vous êtes, jeune ou vieux, en tout cas, il y a ce qu'on appelle quelque chose en nous, dans notre nature en tout cas, qui descend d'Adam. Vous pouvez le voir d'ailleurs avec les petits-enfants. Et moi, je le vois aussi avec les enfants, en tout cas de mon expérience de père. Un enfant, voyez-vous, de 2 ou 3 ans, est, on peut le dire, le mignon ou, voyez, le plus doux des créatures, en quelque sorte. Mais si vous lui dites, en quelque sorte, si vous lui dites, par exemple, « Va t'asseoir là-bas », il se peut qu'il vous tourne le dos pour aller s'asseoir à la place de son choix, par exemple. Vous voyez, même à cet âge, le rebelle se manifeste, commence à se manifester. La Bible appelle ce rebelle, justement, le vieil homme. Et le plan de Dieu, frères et sœurs, est donc de remplacer ce vieil homme par un homme nouveau. Un homme nouveau. Nous pouvons donc dire que sur la croix, justement, notre vieil homme a été mis à mort avec Christ afin que le nouveau puisse vivre en nous à la place du vieil homme. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1, au verset 31, Jean-Baptiste, dans son rôle de précurseur, d'ailleurs je l'ai lu dimanche dernier, précurseur de Jésus, déclare « Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. » Et je disais que le mot racine, en tout cas, vient du mot radical. Ce qui a donné le mot radical, de sorte que l'évangile est le message le plus radical jamais parvenu à l'humanité. Ainsi donc, pour traiter ce problème de rébellion qui touche l'humanité, mais vraiment l'humanité toute entière, vous devez aller au-dessous de la surface, c'est-à-dire à la racine. Ésaïe 53, 6 nous montre clairement ce que signifie la racine. Nous étions errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. Il y a un problème, frères et sœurs, à la racine, notre rébellion contre Dieu. Il y a un rebelle en chacun de nous. Alors, c'est peut-être un rebelle communiste, c'est peut-être un rebelle alcoolique, ou encore un rebelle bien religieux, mais vraiment mis en place. Mais c'est toujours, voyez-vous, un rebelle. Et Dieu, frères et sœurs, n'a qu'un seul remède pour le rebelle. Vous voyez, il ne l'envoie pas d'ailleurs à l'église, afin qu'il s'améliore au jour le jour. Il ne l'envoie pas non plus à l'école de dimanche, comme on fait pour nos enfants, ou dans une faculté de théologie, institut biblique, que sais-je encore, afin qu'il se perfectionne. Il ne lui enseigne pas non plus, voyez-vous, une règle d'or, ne lui donne pas non plus de mémoriser des versets bibliques, mais je vous assure, rien de tout ça. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il l'exécute. il l'exécute. Telle est la solution de Dieu, l'exécution, la mise à mort du vieil homme. Frères et sœurs, le message de grâce, c'est que l'exécution du vieil homme dont il est question a eu lieu en Jésus sur la croix. Sur la croix. Selon l'Épître aux Romains au chapitre 6, au verset 6 à 7, en tout cas, Paul parle de péché passé. Il traite du rebelle qui est en nous maintenant. Vous pouvez aller à l'église, prier et avoir justement vos péchés pardonnés, mais voyez-vous, quand vous sortez de l'église, le rebelle toujours bien installé en vous, vous allez sûrement continuer à pécher. Pour être libéré de l'esclavage du péché, nous devons faire plus que recevoir le pardon de nos péchés passés. Nous devons traiter le rebelle qui est en nous. C'est là que la mort de Jésus sur la croix, justement, entre en jeu. Notre vieil homme a été exécuté en lui. C'est un fait avéré, un fait historique. C'est vrai si vous le savez ou le croyez. Alors le problème de nombreux chrétiens, c'est qu'ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. La crucifixion de notre vieil homme avec Christ ne peut fonctionner dans notre vie que si nous le savons et le croyons. Si nous le savons et nous le croyons. C'est ce qui la rend réelle, en tout cas dans notre expérience quotidienne. Tout homme chez qui le vieil homme n'a pas été traité est encore esclave du péché. Disons les choses clairement, encore esclave du péché. C'est ce qui est dit clairement dans Romains 6, versets 6 à 7. Mais, voyez, la personne qui est morte en Christ a été libérée du péché. Le grec utilise le mot justifié, a été justifié. Une fois que vous avez payé le prix, il n'y a plus rien, mais vraiment plus rien à payer. La loi ne peut rien vous demander de plus une fois que vous êtes mort. Une fois que vous êtes mort, que peut-on demander à un cadavre, à un mort? Rien. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. On a 6, 8 à 10. C'est un fait historique. Et le verset suivant, on donne l'explication, verset 11, ainsi, vous-même, voilà ce que l'apôtre Paul dit, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Se regarder comme mort et vivre pour Dieu. À partir de là, vous vous trouvez devant deux faits et vous devez les appliquer. Le premier fait, l'apôtre Paul dit, notre vieil homme a été crucifié. C'est-à-dire que Dieu l'a fait. C'est fait. Mais il ajoute, deuxième fait, vous devez reconnaître par la foi que vous aussi, vous êtes mort avec Jésus. Vous devez le faire. Tant que vous ne le ferez pas, vous continuerez en quelque sorte à être esclave de votre vieil homme. Paul dit que puisque nous sommes morts au péché, le péché n'a donc plus d'attrait sur nous. Il ne nous attire plus, il ne produit plus de réaction en nous. Il est mort. Nous sommes morts. Considérez-vous ou regardez-vous comme mort au péché. Alors qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il n'a plus de pouvoir le péché sur nous. Et cela s'est produit en nous par la foi en ce que Jésus a fait sur la croix. Notre vieil homme, en tout cas ce criminel, a été exécuté. Le jour de la crucifixion de Jésus, frères et sœurs, souvenez-nous, il y avait trois croix dressées sur la colline de Golgotha, sur le mont Golgotha. La croix du milieu était, en tout cas la plus haute que les deux autres. Maintenant, réfléchissons bien, cette croix du milieu, en réalité, d'après le récit biblique, elle était pour qui, cette croix du milieu? Souvenons-nous qu'on a préféré un certain Barabbas à la place de Jésus. Le peuple a préféré Barabbas à la place de Jésus. Donc, voyez-vous, au dernier moment, Jésus a pris la place de Barabbas. C'était la place de Barabbas que Jésus avait pris. Lui, il l'a fait. Mais Barabbas, frères et sœurs, c'est qui? Mais c'est chacun d'entre nous. Barabbas, c'est chacun d'entre nous. Jésus a pris notre place. C'était là notre place. J'étais le criminel pour qui la croix du milieu avait été dressée. Elle me correspondait exactement, cette croix. Elle était faite à ma mesure. Mais Jésus a pris ma place, notre place. Mon vieil homme a été crucifié avec lui. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24, l'apôtre Paul, vous voyez, nous présente l'image du vieil homme et du nouvel homme, lorsqu'il exhorte ses lecteurs à se dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir, dit-il, l'homme nouveau qui est créé selon Dieu dans une justice et une sainteté, dit-il, que produit la vérité. Remarquez que Paul s'adresse là à des gens qui sont déjà sauvés, des chrétiens d'Éphèse. Il leur dit de se dépouiller du vieil homme et de revêtir l'homme nouveau. Donc, le fait de revêtir l'homme nouveau n'est pas quelque chose d'automatique, voyez-vous, qui nous arrive à la suite de notre conversion. Ce n'est pas automatique quand nous recevons le salut en Jésus-Christ. C'est quelque chose que nous devons travailler après être sauvés. Le fait de revêtir l'homme nouveau. Paul ajoute que le vieil homme expérimente en quelque sorte une corruption progressive à cause des convoitises trompeuses qui sont en lui. Mais l'homme nouveau, selon l'apôtre Paul, a été créé dans une justice et une sainteté. Alors, voici une traduction, en tout cas qui serait l'une des meilleures. L'homme nouveau a été créé selon le modèle de Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité. Modèle de Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. C'est-à-dire que la sainteté procède ou vient de la vérité. Nous ne pouvons recevoir que lorsque nous reconnaissons la vérité sur nous-mêmes, c'est-à-dire la véritable nature du vieil homme en nous. Dans chaque vie humaine, il y a deux forces qui travaillent en opposition. Deux forces. Vous avez d'un côté le mensonge et de l'autre côté la vérité dans chaque vie humaine. Le vieil homme est le produit du mensonge du diable, le vieil homme. Adam et Ève, souvenons-nous, ont cru son mensonge. Vous ne mourrez pas, vous serez comme Dieu. Quand ils se sont ouverts au mensonge du diable, cela a produit en eux la corruption. La corruption. Donc le mot-clé dans la Bible pour décrire le vieil homme est donc corruptible. La corruption, corruptible. Le nouvel homme, au contraire, est créé neuf, nouveau par Dieu. Il est une nouvelle création en Christ. Il est le produit, dit l'apôtre Paul, de la vérité de la parole de Dieu qui produit justice et sainteté. Le remède de Dieu à la corruption est donc de crucifier le vieil homme qui est le produit du mensonge, hein, afin de créer en nous un nouvel homme qui est le produit, lui, de la vérité. Remarquez la différence entre le mensonge du diable et la vérité de Dieu. La vérité de Dieu, à travers la nouvelle création, produit en nous, dit l'apôtre Paul, justice et sainteté. Au contraire, le produit du mensonge du diable, le vieil homme, est absolument corrompu sur tous les plans, moral, physique, etc., etc. D'ailleurs, vous le savez, n'est-ce pas, que la corruption dont il est question est irréversible. Le processus de la corruption, vous ne pouvez pas le retourner. Irréversible. Une fois qu'elle commence, vous peut-être pouvez la ralentir, mais vous ne pouvez pas l'arrêter. Impossible. Prenez un exemple. Prenez un fruit, par exemple, une pêche. Voyez, elle semble parfaite, mais il y a de la corruption à l'œuvre en elle. Si vous la laissez sur la table de la cuisine pendant un certain temps, une semaine, 10 ans, elle va jaunir, elle va devenir jaune, desséchée, mais vraiment peu appétissante. Alors la raison est simple, c'est que la corruption était déjà en elle. La solution moderne, bon, aujourd'hui, avec tout ce que nous avons, en tout cas, c'est de mettre cette pêche, quand elle est bien mûre, en tout cas au réfrigérateur. Mais voyez-vous que le réfrigérateur ne va pas arrêter la corruption non plus, si ce n'est de peut-être la ralentir un tout petit peu. Ceci dit, frères et sœurs, voyez, beaucoup d'églises en quelque sorte, sont comme un réfrigérateur. Elles ne changent pas la corruption, elles la ralentissent simplement. La seule façon de changer une personne est de faire d'elle, selon la Bible, une nouvelle créature, une nouvelle création. Et cela passe par la mort du vieil homme. Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ne fait pas de bricolage à ce sujet. Dieu ne fait pas de rafistolage, non. Il ne soigne pas le vieil homme. Il ne l'améliore pas non plus. Il ne l'éduque pas. Rien de tout ça. Il le met simplement à mort. Une nouvelle créature doit prendre place. Et cette nouvelle créature, Paul le dit, est le produit de la vérité de Dieu. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Avant de terminer notre propos sur cet échange entre le vieil homme et le nouveau, je vous invite, frères et sœurs, à regarder en quelque sorte brièvement à la nature même de la création. L'apôtre Pierre, en s'adressant à des chrétiens nés de nouveau, a dit ceci dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. La nature de la semence détermine la nature de la vie qui sort justement de vous. Si vous semez une graine de moutarde, vous n'obtiendrez pas une pêche. Ce n'est pas possible. Si vous êtes né en tant que personne naturelle, semence corruptible, vous aurez une vie corruptible, une vie sujette au processus de corruption. Si au contraire, vous êtes né de nouveau de la semence incorruptible, vous jouirez d'une vie incorruptible parce qu'il est impossible pour la semence incorruptible de produire une vie corruptible. Impossible. Le mot-clé, donc, pour décrire ainsi la nouvelle nature est incorruptible. Alors que le mot-clé pour décrire le vieil homme, souvenons-nous, c'est corruptible. Donc, le nouveau, c'est incorruptible. Alors maintenant, quelle est la semence qui fait naître le nouvel homme et qu'est-ce qui le rend incorruptible, nous dit l'apôtre Paul? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui engendre l'homme nouveau pour une vie, incorruptible. La parole de Dieu. Jacques, l'apôtre, dit ceci dans Jacques chapitre 1, verset 18. Dieu nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Voilà ce qui nous a engendré. Ainsi, le nouvel homme est le produit de la vérité. C'est la vérité de la parole de Dieu qui engendre en nous une nature incorruptible. Par rapport à notre tendance au péché, cela signifie ceci, d'après 1 Jean chapitre 3, verset 8, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. » Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et Jean ajoute, « Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. » Il ne peut pécher. Donc, si vous êtes né de nouveau, né de Dieu, d'après ce passage, peut-on dire que vous n'avez jamais péché après votre salut? Alors, c'est ce que le texte dit. Alors, ce n'est certainement pas le cas. Pourtant, le verset dit « Il ne peut pécher ». Nous pouvons en conclure que Jean, dans ce verset, ne parle pas d'un individu, mais il parle du nouvel homme de l'individu, du nouvel homme dans l'individu. Mais parce que le nouvel homme dans l'individu est né d'une semence incorruptible, donc il est incapable, lui, de pécher. Je parle du nouvel homme qui est en nous. Tout dépend donc de la nature, voyez-vous, qui nous contrôle, ou de la nature que nous laissons nous diriger. Le vieil homme ne peut s'empêcher de pécher. Le vieil homme, il ne peut s'empêcher de pécher. Le nouvel homme ne peut pas pécher. Voilà mon opposition. Donc, ce que vous faites dépend de ce qui vous contrôle, ce que vous faites. Une personne qui n'est pas née de nouveau ne peut s'empêcher de pécher. Simplement parce que sa nature profonde la pousse à le faire, à pécher. Mais si nous permettons, une personne qui est née de nouveau, lui par contre, il aura le choix. Il aura le choix. Si nous permettons à la nouvelle nature de garder le contrôle, la nouvelle nature, nous n'allons pas pécher. Si nous permettons à la nouvelle nature de garder le contrôle, nous n'allons pas pécher, mais si nous permettons au contraire à la vieille nature de garder le contrôle, forcément, nous allons pécher. Et ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Quoi que vous fassiez, bien-aimé, n'essayez jamais de faire que le vieil homme dont il est question se comporte, surtout pas de façon religieuse. Vous comprenez ce que je veux dire? Cela ne fonctionne pas. La solution de Dieu, c'est que le vieil homme, le rebelle, le corrompu, a été crucifié en Jésus afin que je sois délivré de cette nature mauvaise et corrompue, afin que la nouvelle nature puisse venir en moi à travers la parole de Dieu et prendre le contrôle de ma vie. La religion ne détermine pas l'avenir du vieil homme. C'est la profondeur de la parole de Dieu qui permet à ce que le vieil homme cède au profit du nouvel homme. Ainsi donc, à la croix, frères et sœurs, notre vieil homme est mort en Jésus afin que notre nouvel homme puisse vivre en nous. Tel est le 9e échange qui a eu lieu à la croix. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour le plan de salut. Le plan de salut que tu as déterminé pour l'humanité entière. Tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour le salut de nos âmes, pour le pardon de nos péchés. Seigneur, merci parce que tu nous dis ce matin que ce salut ne s'arrête pas au pardon des péchés Une fois que nous avons reçu le pardon des péchés, une fois que nous avons reçu le salut, nous devons travailler. Travailler à ce que le vieil homme, justement, qui a été crucifié à la croix, oui, le Christ, lui, il a dit que tout était accompli. Mais c'est à nous de travailler afin de nous approprier tous les bienfaits que Christ nous a acquis à la croix. Et la Bible nous enseigne ce matin que ce travail passe par la parole de Dieu, la parole de la vérité. Ainsi, nous devons prendre du temps pour méditer ta parole. Nous devons apprendre ta parole. Nous devons nous laisser transformer par ta parole. Dans la première partie du culte, nous avons évoqué, c'est-à-dire le fait de te chercher, le fait de devenir des amoureux de Dieu. Ceux-là qui cherchent Dieu pour Dieu lui-même, non pas pour ce que Dieu peut nous donner. Oui, nous savons que Dieu a en nous beaucoup de bénédictions, de grandes bénédictions en réserve, mais un amoureux de Dieu va se mettre à chercher Dieu pour Dieu lui-même, parce qu'il sait qu'une fois qu'il a trouvé Dieu, il a trouvé tout. L'apôtre Paul dit, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. C'est-à-dire le fait de chercher Jésus va déterminer ce que nous allons avoir. Oui, Seigneur, nous te disons merci pour ta parole, que le vieil homme soit vraiment crucifié, que nous puissions marcher dans la justice et dans la sainteté que produit la vérité de ta parole. Amen. Bénis ta parole dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen.